Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Corinthiens au chapitre 12. On avait vu la première partie du chapitre la dernière fois. Et je vous propose ce matin un passage relativement court dans ce chapitre 12. Il y a versets 14 à 18. 2 Corinthiens 12, versets 14 à 18. L'apôtre Paul dit : Voici, pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous ? Soit, je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés ? J'ai engagé Tite à aller chez vous, et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous ? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces ? J'arrête là la lecture. On a lu ces 5 versets pour se donner une idée du contexte, et je voudrais surtout insister sur une partie du verset 14 qui va conduire l'essentiel de notre réflexion de ce matin, ce verset 14 où il est dit « Je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. » Alors d'abord, on va voir un petit peu, d'une manière un petit peu plus approfondie, le contexte. Et ensuite, je voudrais partager deux choses qui sont contenues dans ce texte. La première, qui va nous renseigner sur la volonté de Dieu, sur son caractère, sur son plan. Et la deuxième, qui va nous concerner plus personnellement, individuellement. Alors d'abord, quelques mots au sujet du contexte. Je le répète à chaque fois, depuis qu'on est dans cette épître, deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul l'a écrite en partie pour expliquer ses motivations, parce qu'il était critiqué dans l'église de Corinthe, et comme il était lui critiqué derrière, l'évangile risquait d'être discrédité, donc il voulait rétablir la vérité, expliquer ses motivations, expliquer ses décisions. Et en lisant ce passage, les 5 versets que j'ai lus, on se rend compte qu'il fait face à de nouvelles accusations, et là, on lui reproche, on le soupçonne d'être intéressé. On le soupçonne d'avoir l'argent pour mobile, d'en vouloir à l'argent des Corinthiens, à leur bien. Derrière, ça veut dire que l'apôtre Paul ne serait pas un serviteur de Dieu honnête, que son amour n'est pas désintéressé, mais au contraire, qu'il a un motif caché. Et c'est pourquoi qu'il leur dit, voilà, je ne vous serai point à charge. Il leur annonce ça pour leur prouver, si c'est nécessaire, que son voyage va se faire sans que eux aient à verser un seul centime, ni pour le trajet, ni pour l'hébergement, ni pour rien. Il nous dit qu'il n'est pas intéressé ni par l'argent, ni par les biens matériels, mais par quelque chose qui est vraiment beaucoup plus grand, beaucoup plus important. Il les recherche, eux personnellement, en tant qu'individu. Il n'est pas intéressé parce que eux peuvent lui apporter. Je pourrais en rester là pour le contexte, mais je voudrais quand même développer un petit peu, parce que il y a quelque chose là qu'on peut rencontrer assez fréquemment aujourd'hui. Ces soupçons qui pèsent sur l'apôtre Paul, on les retrouve dans beaucoup de cœurs aujourd'hui. Les Corinthiens prêtaient de mauvaises intentions à l'apôtre Paul, et on voit aussi tout autour de nous des gens qui prêtent de mauvaises intentions à des serviteurs de Dieu. Alors c'est délicat, parce que l'histoire nous a montré que une telle méfiance n'est pas forcément injustifiée. Il y a eu des cas où, au contraire, il y a de nombreuses personnes qui se sont servis de la foi pour s'enrichir sur le dos de personnes croyantes. Dieu a été blasphémé, il a été méprisé à cause de personnes qui voulaient s'enrichir au nom de la foi. L'évangile a été discrédité. Il y a aujourd'hui des gens qui ne veulent plus rien entendre de l'évangile, simplement parce que des personnes ont eu l'appât du gain et ont voulu s'enrichir sur le dos des croyants. Alors c'est vrai, ça existe, on peut comprendre qu'une telle méfiance se trouve dans certains cœurs, mais d'un autre côté, et dans le cas des Corinthiens en particulier, c'était totalement injustifié. Et ces soupçons, ils n'étaient là que parce que les Corinthiens soupçonnaient le mal, là où ils ne se trouvaient pas du tout. Et ils en étaient arrivés à critiquer un homme de Dieu, un serviteur consacré, sans aucune raison. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5, il est écrit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Et s'ils avaient vraiment examiné la vie de l'apôtre Paul, ils auraient vu qu'il n'y avait rien à soupçonner. Il est écrit qu'il n'a tiré profit de personne. Et si vous regardez au chapitre 11, versets 7 à 9, il a dit « Je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu ». Il n'a pas retiré de salaire. Il n'a rien demandé pour sa subsistance. Il dit « J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir ». Il considère même que ce qu'il a reçu pour pourvoir à ses besoins, il a dépouillé d'autres églises. Pour lui, c'était un fardeau d'avoir fait appel à des biens extérieurs. Il dit « Lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. » Jamais il n'a pris un centime aux Corinthiens. Pourquoi ? Parce qu'il connaît aussi leur susceptibilité à cet égard. Simplement pour qu'ils n'y trouvent pas une occasion de se détourner de l'évangile. Et aujourd'hui encore, il y a des personnes qui ont une tendance à soupçonner le mal et à chercher à prêter à des serviteurs de Dieu des motifs qui ne sont pas les leurs. Des serviteurs de Dieu qui pourraient dire, comme Paul dans Actes 20, verset 33, « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. » Ou dans 1 Thessaloniciens 2, 5, « Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. » Je dis tout cela parce que celui qui sert Dieu doit avoir un autre mobile, un autre motif que l'argent pour servir Dieu, ou que son enrichissement personnel. Ça ne veut pas dire que le serviteur de Dieu va vivre d'amour et d'eau fraîche. Il a des besoins matériels, comme chacun de nous. Il peut y pourvoir de différentes manières, et ses besoins peuvent même être pourvus par d'autres, volontairement. Mais celui qui sert Dieu peut dire, comme l'apôtre Paul, « Ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même. » Et en méditant là-dessus, j'ai trouvé que cette affirmation était vraiment forte et même fantastique, parce que c'est l'apôtre Paul qui parle. Mais qui est-ce qui a inspiré ces lignes ? C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui parle, là, qui dit « Ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même. » C'est l'Esprit de Dieu qui a mis dans le cœur de l'apôtre Paul un désir qui n'est pas humain, mais un désir qui est divin. C'est pour ça que cette courte phrase nous parle du caractère du Seigneur, de son cœur, de son désir, de sa volonté. Quand on lit « Ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même », c'est nous qui sommes visés. C'est à nous que Dieu s'adresse. Et il nous dit directement que nos biens ne l'intéressent pas. Alors on va revenir là-dessus après. Nos biens ne l'intéressent pas, mais ce qu'il veut a beaucoup plus de valeur que nos biens, ce sont nos personnes, individuellement, chacun. Il nous veut, nous, tout entier, et pour lui. Il n'est pas intéressé par ce qu'on peut lui apporter. ce caractère-là, c'est tellement différent de ce qu'on voit dans le monde. Vous savez, le péché a rendu nos cœurs incapables de manifester un tel amour. On est incapable par nature d'avoir cet amour désintéressé. Si on ne demeure pas en Jésus-Christ, on ne peut pas vivre cet amour et le manifester aux autres. C'est impossible. On est tous des pécheurs, et quand on est en relation les uns avec les autres, si Christ n'est pas là, il y a toujours un intérêt. Il peut être caché, mais il y a toujours un intérêt. Je m'entends bien avec telle ou telle personne à cause de ce qu'elle peut m'apporter. Je me sens bien en sa compagnie. On rigole bien ensemble. Il ou elle fait attention à moi. Il ou elle prend de mes nouvelles. Il me fait des cadeaux. Elle m'aide dans mes difficultés. Il est de mon côté. Elle est d'accord avec moi. Il me comprend. C'est pas forcément mauvais, toutes ces choses. Mais c'est intéressé. Imaginez que ces personnes que vous appréciez aujourd'hui cessent de vous apporter ce qu'elles vous apportent. Est-ce que vous allez continuer à les fréquenter longtemps ? Imaginez que cette personne qui prend souvent de vos nouvelles, ou qui vous invite de temps en temps à déjeuner, ou qui vous rend visite régulièrement, imaginez qu'elle cesse de le faire. Comment est-ce que vous allez réagir ? Imaginez que cette personne dont vous aimez la compagnie, qu'elle cesse de vous encourager, qu'elle cesse de vous soutenir comme elle l'a fait. Imaginez que la personne qui avait pour vous une attention délicate de temps en temps n'ait plus ses attentions, n'ait plus cette délicatesse pour vous. Et celui qui était toujours d'accord avec vous, il cesse d'être d'accord avec vous. Comment est-ce que vous allez réagir ? Est-ce que vous allez cesser d'apprécier cette personne ? Si oui, c'est que votre amour est intéressé et que ça n'est pas l'amour de Dieu. Ça peut vous sembler dur, mais on va lire ensemble un passage dans Matthieu 5. Regardez dans Matthieu 5, versets 46 à 48. Matthieu 5, 46 à 48, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains, c'est-à-dire les gens du peuple, n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Cet amour intéressé, c'est un amour commun, et c'est même un amour pécheur. C'est un amour qui se rencontre chez tous les êtres humains, chez les publicains, chez les païens. C'est un amour qui déforme l'amour véritable, qui déforme l'amour divin, l'amour parfait de Dieu. C'est Dieu qui nous aime, lui, de cette manière totalement, absolument désintéressée. Il ne cherche pas ce qu'il peut tirer de nous. Il ne cherche pas à nous presser comme des citrons, à nous jeter une fois qu'il n'y a plus rien à en sortir. Dieu n'agit pas comme ça. Il ne nous aime pas en fonction de ce qu'on peut lui apporter. Deux versets. 1 Jean 4, 16 dit « Dieu est amour ». Ce n'est pas qu'il manifeste de l'amour, c'est qu'il est amour. 1 Corinthiens 13, 5 l'amour ne cherche pas son intérêt. En nous aimant, Dieu ne cherche pas son intérêt. Les Corinthiens, ils accusaient l'apôtre Paul d'en vouloir à leur argent, d'en vouloir à leur bien. Mais il leur répond que ces choses ne l'intéressent absolument pas. Il cherche quelque chose qui a plus de valeur, mais qui ne va pas l'enrichir, lui. Il cherche des hommes, il cherche des femmes consacré à Dieu, offert à Jésus-Christ entièrement, pour Dieu. Alors, si Dieu recherche quelque chose, est-ce qu'il est intéressé ? Si Dieu nous veut, est-ce que son amour est intéressé ? Je réponds à la question et je donne les arguments après. Non, Dieu n'est pas intéressé. Et les arguments, on va les regarder dans le psaume 50. Psaume 50, versets 9 à 15. Dieu n'est pas intéressé parce qu'on ne peut rien lui apporter. Parce qu'il n'a pas besoin de nous. Parce que le monde entier est à lui. Regardez psaume 50, versets 9 à 15. Dieu dit à son peuple, « Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes, par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux ? Est-ce que je bois le sang des boucs ? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dieu nous dit qu'il n'a pas besoin de nous. On ne peut rien lui apporter. Par contre, ce que lui désire, c'est nous apporter quelque chose. Invoque-moi et je te délivrerai. Je serai là pour toi. Qu'est-ce que tu peux m'apporter que je n'ai déjà ? La gloire, il l'a déjà. Le bonheur, il est le Dieu bienheureux. Notre argent, l'argent et l'or sont à lui. Par contre, il se propose d'être notre aide, d'être notre secours, d'être notre soutien. Et de sorte que la seule chose qu'on pourra faire, c'est le louer, c'est l'adorer pour cet amour insondable, quelque part même incompréhensible. Dieu m'aime. Point. Ça dépasse tellement la façon dont nous concevons nos relations. Dieu nous veut. L'Éternel veut notre présence. Il veut nos personnes. Et on comprend maintenant dans 2 Corinthiens 12 pourquoi l'apôtre Paul dit « Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vous, pour vos âmes, même si je dois en vous aimant davantage être moins aimé de vous. » Dieu est prêt à tout donner pour nous. Lui qui n'a pas épargné son propre fils mais qui l'a donné pour nous, il est prêt à tout donner, à se dépenser encore et encore sans compter et sans rien attendre en retour. Là encore, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. L'Esprit qui attend rien en retour. Simplement parce qu'il désire aimer. Il y a quelque chose de sérieux ici, et je dirais même quelque chose de sacré. On verra ensuite pourquoi. Retenons, ce ne sont pas nos biens que Dieu recherche, c'est nous-mêmes qu'il veut. Votre argent ne l'intéresse pas. Vos biens ne l'intéressent pas. Vos bonnes actions ne l'intéressent pas. Ce qu'il veut, c'est vous, c'est moi. Entier, totalement, sans réserve, pour lui. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu, c'est pas qu'il vous accepte, c'est pas qu'il vous tolère, il nous recherche. Il me recherche moi. Moi qui n'ai rien à lui apporter, qui suis un pécheur. Et c'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Rien. Tout à l'heure, notre frère a lu Ésaïe 55, « Venez acheter sans argent, sans rien payer. » Mais c'est Dieu qui fait une alliance, c'est Dieu qui s'engage. Il dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Il y a un instant, je disais qu'il y a quelque chose de sérieux et de sacré dans cet amour. Si Dieu m'aime à ce point, ça veut dire que je ne peux pas le tromper. Je ne peux pas lui refuser ma personne. Je ne peux pas essayer même de marchander avec lui. Parce qu'il me veut entier, il me veut sans réserve. Vous savez, on a du mal à se donner de cette manière, à se donner totalement, à s'abandonner à Dieu. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'il règne dans nos vies. Je sais qu'on le chante volontiers, on le dit même souvent. Oui, Seigneur, règne en moi. Mais je crains que ça soit souvent un vœu pieux et qu'on en reste au stade des paroles et qu'on ne passe pas à la phase au-dessus, à la mise en pratique. Que Christ règne vraiment en moi, parce que ça implique un don total. Un abandon de ma personne à sa souveraineté, à sa royauté. Ça implique qu'il dirige tout dans ma vie. Ça implique qu'il inspire même mes pensées les plus secrètes, qu'il ait un droit de regard sur tout, et pas qu'un droit de regard, un droit d'inspiration, un droit de direction sur toute ma vie. Regardez Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1 est écrit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à vendre vos corps. » Non. À offrir une partie de vos corps. Non, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte, au nom de l'amour de Dieu, au nom de ses compassions, à vous offrir, pas à vous vendre, pas à échanger. Naturellement, on va avoir tendance à transiger, à monnayer, à échanger contre de l'argent, contre du temps, contre des bonnes œuvres, la souveraineté que Dieu doit avoir dans nos vies, qu'il est en droit d'exiger de nous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas être en paix parce que vous savez que Dieu demande quelque chose et vous n'êtes pas prêt à lui céder? Dans ces cas-là, ce qui nous arrive, notre tendance naturelle, ça va être de vouloir monnayer. Donnant. Donner plus d'argent pour apaiser sa conscience. Redoubler d'ardeur, dans mon zèle pour compenser. Allez, je vais lire la Bible un peu plus. Je vais prier plus longtemps. Je vais donner plus à Dieu. Je vais en faire plus pour lui. Mais l'idée qu'il y a derrière, c'est: Seigneur, je ne veux pas faire ce que tu me demandes parce que c'est trop dur, parce que ça me coûte trop, parce que j'ai pas envie. Parce que ça ne me plaît pas. Parce que je préfère autre chose. Mais en échange, je vais faire ça ou ça. D'accord ? Comme ça, ça compense. Et puis, on est quitte. Mais on n'est pas quitte. En vrai, on n'a pas obéi. En vrai, on n'a pas fait ce que Dieu demandait. On n'a pas laissé Christ régner en nous. On a décidé d'avoir le règne dans cette partie-là de notre vie. Et ce qui est terrible, c'est que dans ces circonstances-là, on se trompe soi-même. Et on pense tromper Dieu. Mais c'est nous-mêmes que nous trompons. Dieu n'est pas trompé, il sait très bien qu'on a retenu quelque chose. Repentons-nous de nos cœurs qui sont partagés de la sorte. Vous savez, en tant que disciples de Jésus-Christ, on peut rencontrer des luttes dans nos vies. On prie, on dit: Seigneur, je te laisse régner dans ma vie. Tu es mon roi, je te laisse décider. Et puis l'instant d'après, on est en train de faire notre propre volonté. On essaye de reprendre le contrôle. Mais à un moment, oui, il faut abdiquer et si nécessaire, réabdiquer tous les jours, encore et encore. C'est ça, porter sa croix. Ah, j'aime beaucoup ce chant. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Il me rappelle, dans ces moments où je suis tenté de vouloir décider, de vouloir en faire qu'à ma tête. Non, dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Et je le ferai. Et au milieu de tout ça, de ces luttes qu'on partage tous, je bénis le Seigneur pour sa patience et je le bénis pour son amour, parce que s'il n'était pas patient et aimant, mais ce serait terrible. Mais il supporte tout ça avec beaucoup de patience, parce qu'il veut nous faire progresser et il sait qu'on a un cœur qui est tortueux par-dessus tout. Et il nous cherche, alors il est lent à la colère. Et il est riche en bonté pour nous aider à avancer. Je voudrais nous amener à considérer une dernière chose. Dans l'Ancien Testament, il y a un passage qui illustre bien, je trouve, le désir que Dieu a de nous avoir pour lui. On va regarder ensemble dans le livre de l'Exode. Si vous voulez regarder Exode 29. Le livre de l'Exode, c'est l'endroit où il est raconté dans la Bible la sortie d'Israël d'Égypte, de l'esclavage. Il se retrouve dans le désert et là, Dieu donne des instructions pour bâtir le tabernacle, un temple portatif. Et rien que ça, il y a quelque chose de beau. Quelques pages avant, au chapitre 25, verset 8, il écrit « Ils me feront un sanctuaire » et j'habiterai au milieu d'eux. Déjà, on voit que le désir de Dieu, c'est d'habiter au milieu de son peuple. Mais au chapitre 29 et verset 37, Dieu va donner des instructions. C'est très précis, très détaillé. Et on pourrait passer dessus assez facilement, mais là, c'est des instructions par rapport à l'autel où les sacrifices doivent être faits. Exode 29, 37, il dit « Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel et tu le sanctifieras. Et l'autel sera très saint, et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. » Alors, vous allez me dire, quel rapport avec notre texte ce matin ? Eh bien, on voit ici que Dieu fait dresser un autel où seront amenés tous les sacrifices offerts à Dieu. Et les premiers sacrifices qui sont offerts, ce sont ces sacrifices d'expiation. C'est-à-dire que la victime est mise à mort et elle est offerte pour enlever le péché. C'est ce qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ en allant à la croix qui est l'autel où il a été mis à mort et où il s'est offert pour nos péchés. À partir de cet instant, l'autel est sanctifié, c'est-à-dire pur et mis à part, réservé pour l'usage exclusif de Dieu, des sacrifices qui doivent être offerts à Dieu. L'autel ne peut plus être utilisé pour autre chose. Et puis il y a cette précision sur laquelle on aurait pu passer sans faire attention. Tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Ça veut dire que si un objet ou une personne, quel qu'il soit, venait à entrer en contact avec l'autel, automatiquement il était rendu saint. Ça veut dire consacré, mis à part, réservé pour l'usage exclusif de Dieu. Il ne pouvait plus sortir de la présence de Dieu, il ne pouvait plus être utilisé pour autre chose que pour le service divin. Quand on s'est approché de la croix, on s'est approché de l'autel sur lequel Jésus-Christ a été mis à mort, sur lequel il s'est offert. Nous sommes sanctifiés, nous sommes mis à part, nous sommes consacrés et réservés pour lui. C'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi et que nous soyons tout entiers pour lui et que nos vies ne servent plus à autre chose qu'à son service, qu'à sa gloire. que le Seigneur veuille nous révéler encore plus profondément par son esprit ces vérités qu'on a vues aujourd'hui. On va prier.